l'épreuve des faits. Céline Pitlet.
Et on commence donc avec notre premier dossier sur l'ultra-droite. Qui sont les militants d'ultra-droite? Sont-ils plus nombreux qu'avant? Plus dangereux? Que veulent-ils? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors vous pouvez d'ailleurs nous poser vos questions grâce au QR code qui va s'afficher. Nos experts en plateau y répondront. On commence d'ailleurs avec une question que nous a envoyée Benoît cette semaine et qui dit: quelle différence entre extrême droite et ultra-droite? Écoutez la réponse de Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, Fondation Jean Jaurès.
L'ultra-droite, c'est un terme qui a été forgé par les services de police et les services de renseignement intérieur pour décrire tout ce qui est à droite des partis Rassemblement National et Reconquête et qui agit en dehors du cadre parlementaire par petits groupes qui, depuis les dissolutions de Génération Identitaire, du Bastion Social, d'un certain nombre d'autres mouvements, ont essaimé dans la plupart des métropoles françaises, de plus en plus aussi dans des villes petites et moyennes, avec des effectifs qui varient d'une dizaine de militants actifs à une cinquantaine, c'est plus à Lyon par exemple.
Benoît va même plus loin dans cette question, notre téléspectateur, il nous dit: les militants ultra de Lyon sont issus des rangs de l'extrême droite. Non? Qu'est-ce qu'on lui répond, Éric Poulia? Est-ce que dans l'extrême droite, il y a un vivier pour cette mouvance ultra?
Aujourd'hui, l'extrême droite, au sens politique du terme, comme ça a été bien rappelé par M. Camus, effectivement, l'extrême droite, c'est le champ démocratique, et l'ultra-droite, c'est ce qui se place en dehors du champ démocratique. Et l'extrême droite, aujourd'hui, a plutôt tendance à dresser une cloison entre l'ultra-droite et l'extrême droite, puisqu'elle est en recherche de banalisation, ou en tout cas de dédiabolisation, comme on l'a dit.
Vous parlez là du Rassemblement National.
Par exemple. Donc, les gros bras de l'ultra-droite, aujourd'hui, elle préfère les laisser généralement loin.
Alors, quel est le positionnement des individus qui relèvent de l'ultra-droite? Quelles sont leurs idées? Écoutez Jean-Yves Camus.
Ce sont des gens qui sont hostiles à la démocratie en général, qui ne cachent pas leur xénophobie, qu'il se passe quelque chose comme ce qui s'est produit à Crépol ou pas d'ailleurs, et qui sont de plus en plus, et ça c'est très intéressant et un peu nouveau, dans une optique consistant à réagir immédiatement à des faits d'ultra-violence. Et puis le second problème, c'est que quand on regarde les réseaux sociaux de ces groupes, on s'aperçoit de plus en plus qu'ils sont dans une conflictualité avec les forces de l'ordre.
Et voici comment cela se traduit en slogan. C'était hier soir à Paris.
Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi. Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi. La racaille, en prison, clandestin, dans l'avion. La racaille, en prison.
Éric Poulia, ils ont quel âge, ces manifestants d'ultra-droite? Ils vivent où? Est-ce qu'on peut dresser un portrait?
Alors, je méfie toujours des profils types, disons, il y a des grandes familles, voilà. Mais il y a une véritable porosité entre ces familles aujourd'hui. Mais dans les grandes familles historiques, il y a les identitaires, ceux qu'on a vus, par exemple, hier à Paris, voilà, qui sont plutôt dans une logique de conflit de civilisation, voilà, d'identité, de sauvegarde d'une certaine forme d'identité française telle qu'ils le conçoivent. Il y a les, ce qu'on appelle les nationalistes, c'est-à-dire plutôt issus des mouvances néo-nazis, etc. Les identitaires sont plutôt des jeunes, réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, ils sont pas forcément toujours violents, comme on le voit. Ils sont plutôt ils sont activistes, au sens premier du terme. Et d'ailleurs, ils n'hésitent pas à piquer un peu, des fois, les codes de l'ultra-gauche ou des sociétaux. Parce que si ça marche, pourquoi pas le faire, nous aussi. Donc, ils utilisent les réseaux à leur compte. Les nationalistes et tout ce qui est véritablement, néo-nazis, etc., eux sont plutôt, dans le coup de force, voilà. Et puis, nous l'oublions pas, dans l'ultra-droite, il y a toujours un petit fond royaliste aussi, qui est plutôt des gens du CSP+, traditionnalistes, éduqués, très éduqués, voilà, et qui est plutôt même une porte d'entrée parfois pour l'ultra-droite.
Alors, vous êtes co-auteur d'un rapport parlementaire sur l'activisme violent, dans lequel on peut lire que l'ultra-droite en France, c'est 3300 individus. Fanny, est-ce que ce chiffre, on peut le mettre en perspective? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Bien. Regardez déjà la composition de ces 3300 personnes identifiées comme appartenant à l'ultra-droite. Les renseignements français les identifient en plusieurs catégories. Il y en aurait parmi eux 1300 identifiés comme violents et donc fichés S. Les 2000 autres seraient, selon les termes de renseignements, des personnes qui feraient office de caisse de résonance. Alors, dans un rapport parlementaire, justement, que vous évoquiez, qui est donc publié récemment, on voit que, par exemple, eh bien, on est beaucoup moins nombreux donc dans ces mouvances d'ultra-droite que lors de la guerre d'Algérie, quasiment deux fois moins. Regardez, 3300 aujourd'hui, on le disait, c'était 7000 donc lors de la guerre d'Algérie. Et puis regardez, cela reste tout de même, ça aussi c'est mis en perspective par ce rapport, très important par rapport à un passé plus récent, aux années 2000, puisque donc par rapport à 3300 individus aujourd'hui, eh bien il n'y en avait que entre guillemets 2500 jusqu'au début des années 2000. Et le rapport parlementaire estime d'ailleurs que le risque lié à l'ultra-droite augmente.
Merci beaucoup Fanny. Vous écrivez effectivement que ce risque de l'ultra-droite augmente. À quel point? Quelle est l'ampleur de la menace?
Alors, il ne faut pas oublier qu'on parle quand même que de 3000 personnes. Alors, elles sont certes ultra-violentes, mais c'est quand même une population qui, comme on l'a vu, reste assez stable malgré tout. Les bataillons, on va dire, nouveaux sont plutôt sur l'ultra-gauche et les sociétaux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le rapport, le risque à venir est peut-être d'ailleurs plus de ce côté-là en termes de violence qu'aujourd'hui dans l'ultra-droite. Mais le risque actuel, c'est l'ultra-droite, effectivement, qui elle... Mais elle profite aussi d'un contexte, d'un moment voilà, où la violence se banalise, où voilà, l'extrême droite monte dans notre pays et donc elle se décomplexe et aujourd'hui elle se montre un peu plus à visage découvert.
Mais quand on parle du risque de l'ultra-droite, c'est une menace pour qui, pourquoi?
En fait, l'ultra-droite a un projet et aujourd'hui, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, elle a une tendance, un moyen de faire qui s'appelle l'accélérationnisme, c'est-à-dire qu'elle veut accélérer le combat civilisationnel, le conflit entre... ce qu'ils appellent, eux, dans le camp dans lequel ils se mettent, c'est-à-dire le camp occidental, blanc, voilà, et les autres. Voilà. Donc, ils veulent accélérer ce conflit direct. Donc, il y a un vrai risque de guerre de rue, d'affrontements physiques immédiats et d'agressions même aux personnes.
Il y a une note du renseignement territorial qui a été publiée lundi, qui s'inquiétait de nouveaux rassemblements qui seraient organisés par l'ultra-droite, qui seraient susceptibles de manifester un niveau de violence important à l'encontre notamment des populations issues de l'immigration et des forces de l'ordre. Laurent Neumann, quelle est la réponse de l'exécutif face à ce risque ?
Visiblement une très grande vigilance, et quand on lit cette note, on voit bien le risque. Une précision, bien sûr que l'ultra-droite est en dehors du champ démocratique des partis identifiés, ceux qui se présentent aux élections, mais dans toutes les manifestations que vous avez vues, certaines étaient accompagnées par des élus locaux de partis démocratiques et connus. Je pense par exemple à Annecy, on a vu des membres de Génération Z proches de Reconquête et d'Éric Zemmour. À Albi, on a vu des élus locaux proches du Rassemblement National. Donc c'est a priori séparé, mais en réalité on voit bien qu'il y a une forme de porosité. La deuxième chose, et c'est ce qui inquiète pour répondre à votre question, le renseignement intérieur, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Dublin. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il semble que ces faits de guérilla urbaine menés par ce qu'on appelle là-bas, alors on l'appelle pas l'ultra-droite, mais en tout cas de l'extrême droite, souvent des hooligans qui ont envie d'en découdre, il semble que ces faits aient d'une certaine manière libéré d'autres actes qui ont lieu sur le territoire français, la multiplication de ces manifestations. Et puis la troisième chose, parce qu'il faut le dire aussi, la plupart de ces manifestations sont non violentes, mais l'ultra-droite telle qu'on vient de la définir, l'État considère qu'elle est à l'origine de 13 tentatives d'attentats sur le sol français depuis 2017. Attentats déjoués, heureusement, mais ça veut dire que le risque est extrêmement élevé. Et donc, quand on voit la multiplication de ces manifestations, le risque pour le renseignement intérieur est pointé, évidemment, dans la note à laquelle vous faisiez allusion.
Merci beaucoup, Laurent.